vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Il va vous parler en ce mois d'octobre, il vous propose de cheminer avec Edgar Morin, le grand Edgar Morin, aidé par Marc de Smet, avec Paysan de Dieu du frère François Cassin-Genat Trévedi, avec Des jardins secrets remplis d'orties, de Dominique Bertrand, un auteur qui vient du Québec, avec La première histoire de Frédéric Gros, pour moi une révélation, et je pense aussi que ce sera pour vous une révélation, et avec En attendant le déluge, on parle de déluge, de pluie de 1983, à Bilbao, de Dolores Redondo, et inédit en France, Les âmes de feu, Les âmes de feu, de Annie Français-Harar, qui est une Autrichienne, et qui vient de paraître chez Bellefond. Je remercie Bellefond qui me l'a fait parvenir, un classique oublié de la littérature d'anticipation. Mais vous verrez que ça va très bien, avec le thème, l'écologie, avec le thème de ce mois d'octobre. Et puis, en septième position, Écologie tragique, de Fabrice Hadjadj, un livre que j'ai perçu, paru aux éditions MAM, et qui rentre très bien dans la note présentée, l'écologie. Alors, je commence par cheminer vers l'essentiel de Edgar Morin. C'est le titre de cette merveilleuse synthèse de sa vie, de son œuvre, « Cheminer vers l'essentiel », un récit étonnant et attendu, parce que on le connaît, Edgar Morin, mais je pense que si vous voulez vraiment le connaître, eh bien, il faut lire ce texte « Cheminer vers l'essentiel » avec plein de clés qui ouvrent plein de portes sur la vie et l'œuvre de Edgar Morin. Il est accompagné pour ce chemin avec Marc de Smet, qui connaît très bien sa vie et son œuvre. Donc, c'est un livre tout à fait remarquable qu'il faut lire absolument. Pour moi, c'est édité par Albin Michel. Je remercie l'éditeur Albin Michel qui était généreux pour moi en ce début de rentrée littéraire. Pour moi, dit-il, c'est Edgar Morin qui parle, pour moi, le mystère est omniprésent. Non seulement il nous enveloppe, mais il est en nous. Pourquoi l'univers? Point d'interrogation. Pourquoi la vie? Voilà. Toute connaissance débouche sur un mystère, ou sur le mystère. Et ce mystère est empreint de poésie. C'est une très belle définition de la vie. Le parcours d'Edgar Morin est en soi une leçon de vie. Voilà. On pose les mots, une leçon de vie. D'où l'intérêt de ce livre qui parcourt un demi-siècle de réflexion et de combat, et montre sous des angles souvent méconnus l'évolution d'une grande figure intellectuelle qui fut et reste la tête pensante des nouveaux paradigmes à mettre en œuvre dans l'immense crise à plusieurs visages que nous vivons. On parle souvent de cette crise à plusieurs visages que nous vivons. Et c'est un Edgar Morin original qui se livre, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut lire ce livre « Cheminer vers l'essentiel » qui se livre à nous, abordant aussi bien son rapport à la spiritualité qu'à l'ésotérisme, à la psychologie généalogie, qu'au rapport homme et femme, les pouvoirs du corps et les phénomènes paranormaux, débattant de l'éducation et de la sagesse, de la métamorphose explosive de l'humanité et des espoirs possibles, de la mort aussi au sein de la vie, de la fête, de la joie qu'il a retrouvée et de la créativité. Il faut assumer l'aventure de la vie tout en affrontant le chaos. Il parle bien d'un chaos et il y a bien un chaos dans notre monde avec ses guerres internes ou externes. Telle pourrait être la conclusion de cet opti-pessimiste plus que centenaire, puisque Edgar Morin a 103 ans. Et il porte bien 103 ans. Il est considéré comme l'un des plus grands intellectuels français, sociologue et anthropologue. Il est le philosophe de la complexité et le chantre de la transdisciplinarité des savoirs. La transdisciplinarité des savoirs et d'une pensée qui relie. Son opus majeur, que j'avais présenté en partie seulement parce que c'est plusieurs volumes, la méthode, est traduite dans le monde entier. Encore un moment et son dernier livre qui est paru chez De Noël en 2023. C'est dire combien il est prodigue. Que faire désormais face au chaos? Espérer l'imprévu? Les solutions heureuses dans l'histoire ont été imprévues, dit-il. Et les crises profondes peuvent apporter soit le désastre, c'est peut-être ce que l'on voit, le désastre, soit la solution. Voilà. Le corps humain est la merveilleuse image de l'âme humaine. Il dit même qu'il y a le corps humain qui est masculin, et l'âme humaine qui est féminine. On est à la fois masculin et féminin. Et c'est grâce au corps que je peux connaître le miracle du sujet que je suis, le miracle, il parle bien du miracle, du sujet que je suis, voilà, nos vies sont des miracles. Méditer sur le mystère qui dépasse la capacité de l'esprit humain, le fait d'exister, d'avoir un corps, un esprit, une âme, de vivre. C'est des méditations sur lesquelles il médite justement dans ce livre « Cheminer vers l'essentiel ». Avec la voix, car il prétend être bouddhiste, donc la voix c'est un chemin justement, cheminer vers l'essentiel avec la voix sous nos pieds, et la joie qui m'habite, parce qu'il a retrouvé la joie à le soleil de Montpellier, et un amour aussi, une femme. Donc tout est bien pour lui. Et il termine en disant que tout engagement de solidarité et de fraternité donne la joie. Merci, cher Edgar Morin. Et je veux passer à un deuxième roman. Important, très différent, intitulé « Paysan de Dieu », du frère d'un moine, qui est un frère François Cassin-Genat Trévedi, qui vient de paraître également chez Albin Michel. Ce texte est un journal qui relate toute une année liturgique. En effet, François Cassin-Genat Trévedi a décidé de se retirer au cœur de l'Auvergne. Il s'est promené et il a trouvé au cœur de l'Auvergne, dans le Cantal, une maison, une terre où s'arrêter. Après des décennies de vie monacale ardente en abbaye bénédictine, il nous livre ici un journal de bord singulier, rythmé autant par les travaux et les jours d'un peuple de haute terre, d'un peuple de paysans de haute terre, celui du plateau du Césalier, que par la succession des fêtes de l'année liturgique que les chrétiens qui vont à la messe chaque dimanche suivent très bien et apprécient, car il y a un magistère, voilà, qui fait très bien les choses. Au fil des pages, le lecteur comprend qu'il a ici adéquation, sinon équivalence, entre le temps ordinaire des tâches les plus humbles, soumises aux aléas des saisons et des bêtes, car il faut les entretenir, ces bêtes, les traire, s'en occuper, mélanger peut-être les races, comme c'est dit dans le livre, et le temps liturgique qui élève l'âme par ses rites et ses chants. L'étable apparaît alors presque aussi sacrée que l'Église. Ce prêtre se mêle en effet aux vachers pour être parmi eux, laissé, semble-t-il, à l'abandon de Dieu. La traite devient un exercice culturel et la bouse, parce qu'il est bien obligé, pour traire les vaches, pour apprendre à traire les vaches, pour se mêler aux paysans, eh bien de mettre un vêtement approprié et des bottes pour entrer dans la bouse. Et la bouse devient matière d'un poème ou d'un psaume. Voici un exemple, le psaume 117 qu'il donne. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et de joie qu'il donne, voilà, tout en trayant les vaches, pour le jeudi après Quasimodo. Aucune provocation dans ces formules surprenantes, seulement le vécu d'un moine qui a choisi de s'engager dans la condition paysanne, ce faisant, il participe par son écriture poétique à la promotion d'un monde rural aujourd'hui éprouvé dans ces régions de Haute-Auvergne, tout ça, c'est un peu désolé, donc, d'un monde rural aujourd'hui éprouvé, auquel il destine quotidiennement ses mélodies grégoriennes. François Cassin-Genat-Trévedy est un moine bénédictin, mais aussi normalien, il est normalien, docteur en théologie, spécialiste de la tradition liturgique, traducteur de Virgile, qu'il connaît très bien, et des pères de l'Église syriaque. Mais pour lui, ce monde paysan est béni de Dieu. Voilà pourquoi il s'y mêle avec ardeur. Et pour faire avancer le royaume dont on célèbre aujourd'hui le prince, qui est le Christ, qui est le prince de ce royaume, royaume des cieux, mais qui commence déjà sur cette terre, voici un exemple qu'il donne dans ce livre « Paysan de Dieu ». Le royaume des cieux, dit-il, c'est pas moi, c'est Jésus qui le dit, le royaume des cieux est comparable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères, qui deviendra même un arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Passage de l'évangile de Matthieu. Pour dire que Jésus connaissait très bien et la vigne, le travail de la vigne, et le travail des campagnes, des champs, des jardins aussi. Car si les hommes élèvent les bêtes, c'est bien la terre, ici, qui élève les hommes. L'eau, le feu et le vent, dit-il, ce frère, l'eau, le feu, le vent, sont mes maîtres. Je ne sache pas qu'il existe au monde meilleure université que cette école élémentaire à laquelle je suis retourné, celle de paysan de Dieu. La vie observante d'ouvriers agricoles ne distrait pas de la vie intérieure, tout en trayant les bêtes ou en les parquant dans les parcs, on peut avoir une vie intérieure, et elle n'a pas son égal pour assurer le recueillement. Voilà. Et il termine en disant, ce frère de paysan de Dieu, ce frère François Cassin-Genat-Trévedy termine en disant que elle est mon cloître, cette vie observante d'ouvrier agricole, elle est mon cloître le plus intensément aimé, car je partage aussi avec ces paysans le recueillement de ma vie intérieure. Et je passe à un troisième livre, Des jardins secrets remplis d'orties, de Dominique Bertrand, édité par La Belle Étoile. Dominique Bertrand est québécoise, ancienne mannequin internationale. Elle est devenue animatrice à la télévision et à la radio, puis autrice. Et ce roman est ce livre est son troisième roman, Des jardins secrets remplis d'orties. On pourrait croire qu'il fait suite justement à Paysan de Dieu, puisqu'on dans Paysan de Dieu, il a un jardin, il cultive un jardin. Mais ici, donc, il y a bien un jardin secret. Elle connaît bien, Dominique Bertrand, elle connaît bien le monde. Et cela se ressent dans son écriture, dans sa narration, avec des expressions québécoises, mais aussi de la littérature internationale, je dirais. Nous sommes au début de ce roman, au bord de l'abîme, avec Clara, l'un des personnages principaux, une femme déjà d'un certain âge, qui a une fille, mais cette fille adolescente ne la regarde plus, s'en va. Elle se sent donc délaissée par sa fille et par son mari, surtout par son mari, dans son immense propriété en fulmarbre marbre Carrare. Donc il y a de la richesse, mais son mari s'occupe d'autres choses. Il délaisse Clara, sa femme. Donc elle s'enfuit sur un coup de tête et finit par s'échouer dans un relais routier miteux, le Sanggood, situé en bordure du parc de la Vérendrye, au Québec. Et c'est là qu'elle fait la connaissance de Richard, le deuxième personnage de ce roman. Richard, chauffeur, routier, lui aussi écorché vif, je ne dévoile pas, mais vous le découvrirez en lisant ce roman, pourquoi il est devenu, et il est un écorché vif. Dans une chambre minable, ces deux êtres abîmés par la vie, et qui n'étaient pourtant pas destinés à se rencontrer, mais des fois le destin, vont renaître de leurs cendres, et puis ils vont regarder autour d'eux, en particulier Simone, qui s'écrit avec un Y, Simone, la jeune serveuse de l'établissement qui attend un bébé et qui est victime de violences conjugales. Bob, son mari, ne cesse de la battre alors que c'est elle qui fait tout. Et ils vont, Clara et Richard, ils vont la couvrir de leur aile protectrice. Voilà pourquoi Des jardins secrets remplis d'orties est un beau roman québécois de Dominique Bertrand. C'est Simone qui, en effet, s'occupe de tout, la vaisselle, les chaudrons, la cuisine, les tables, même si Bob, son mari, tient le bar et la tabasse. Mais un jour, avec l'aide de Clara qui va mettre une drogue dans le verre de Bob, et il va devenir saoul comme une botte, alors Simone va s'emparer du trousseau de clés sans le réveiller et faire sa petite enquête. Car il y a bien un mystère. Pourquoi Bob tenait presque en laisse Pouliot, qui est le chef de la police, avec aussi quelques autres compères, Pouliot. Pourquoi Pouliot vient bien régulièrement boire à l'œil son verre, sa bière? Il doit bien y avoir un accord, un secret, un marchandage. Mais elle a beau aller fouiller dans la cave, tout renverser, rechercher, mais elle ne trouve pas ce qui peut être un marchandage. Mais il doit bien y avoir quelque chose. Et alors, par la suite, tous les trois trouveront le vide de forme. Il y a aussi Oprah, qui est une biche orpheline. Et c'est Bob qui a tué la mère d'un coup de fusil, car il est chasseur aussi, comme par hasard, et qui voudrait bien s'en prendre aussi à la biche orpheline, mais celle-ci, grâce à Simone et grâce à Clara et Richard, donc, elle va pouvoir échapper au meurtre et même s'enfuir, mais on la retrouve à la fin du roman. Elle revient. Donc, à force de courage, de tendresse, Clara, Richard et Simone vont s'épauler, réapprendre à vivre et peut-être même réussir à aimer à nouveau, à s'aimer, à aimer à nouveau. Et comme c'est un roman dit noir, on n'y dit pas comment ils ont pu se venger sans mort d'homme, c'est-à-dire trouver une trace de ce qu'il y ait Pulio et Bob et les autres, et même le mari de Clara. Pourquoi est-il devenu comme ça? Donc, grâce à un DVD, voilà, je vous le dis quand même, il faut qu'ils ont pu trouver, retrouver, eh bien, ils vont avoir de quoi se venger et de se sentir libre de vivre et d'aller. Heureusement, s'il est vrai que les cœurs ne guérissent jamais tout à fait, ils finissent quand même presque toujours par survivre pleinement. Voilà. Ce roman est tout à fait idéal. C'est un nouveau roman qui décape sans vergogne et que je vous conseille de lire. Voilà, je voulais un court passage d'un Agnus Dei. Voilà. La première histoire, j'arrive aussi à un quatrième roman. La première histoire, c'est le titre de ce roman, de Frédéric Gros, qui vient de paraître également chez Albin Michel, que je remercie parce que pour moi, c'est une révélation. Ce livre est un roman, même s'il s'appuie sur des faits historiques, qui nous plonge au 1er siècle après Jésus-Christ, dans les années 40. Le personnage principal, Théoclia, est une jeune noble de la colonie romaine d'Iconium, aujourd'hui appelée Konya, et que j'ai la chance de connaître en Turquie, sur les hauts plateaux d'Anatolie. Théoclia, donc, elle est fascinée par les discours enflammés de Paul de Tarse. Voilà, Saint Paul, qui avait combattu les chrétiens, et sur le Adama, sur le chemin, eh bien, il a découvert que c'était le Christ qu'il poursuivait, et il fallait qu'il se convertisse. Donc, il s'est converti, et il décide de partir avec Barnabé et d'autres pour aller en Turquie fonder les premières églises après Jérusalem. Mais voilà que cette Théoclia, fascinée par les discours enflammés de Paul de Tarse, décide de rompre ses fiançailles parce qu'elle devait se marier avec un parti tout à fait honorable qui aurait renforcé les liens financiers de sa mère, de sa famille. Et donc elle décide de rompre ses fiançailles et de suivre l'apôtre et de faire de sa virginité un acte de résistance. Et c'est cela que l'on ne va pas admettre de sa part. Elle sera donc arrêtée et mise en prison avant d'être condamnée. Dans un premier temps, elle est condamnée sur le bûcher. Miraculeusement, il va pleuvoir beaucoup et les flammes du bûcher vont s'éteindre. Donc elle pourra s'en aller. Mais elle va s'habiller en homme et elle va continuer à vouloir devenir chrétienne. Alors elle sera remise en prison. Et là, précipitée dans l'arène pour être mangée par deux lions et d'une lionne à crinière. Mais celle-ci, cette lionne à crinière, va s'attaquer aux deux fauves, aux deux lions, et la protéger, et même elle mourra de ses blessures. Donc, troisième miracle qui fait que Théoclia ne sera pas dévorée par les deux lions. Alors, il va y avoir faut dire que les gens lui en veulent vraiment beaucoup, surtout celui qui devait devenir son mari, qui n'accepte pas. Et donc, elle va, dans un troisième temps, on veut encore la plonger dans un bassin infesté de crocodiles. Mais elle va se précipiter d'elle-même dans ce bassin infesté, car Paul n'a pas eu le temps de la baptiser. Il a dû s'enfuir parce que lui aussi, bien que citoyen romain, ne peut pas prêcher le christianisme sans que cela fasse de l'ombre à la colonie romaine. Et donc il doit s'enfuir, partir dans d'autres lieux. Donc il n'a pas eu le temps de la baptiser. Alors elle va s'auto-baptiser elle-même, donc se plonger dans ce bassin comme dans un baptistère ou dans le Jourdain avec Jean-Baptiste. Mais ici, donc, c'est une condamnation. Et alors, ce qui va se passer, miracle encore une fois, c'est que l'eau devint comme un lac d'été transparente et que les crocodiles vont disparaître. Voilà. Donc, elle devient vraiment chrétienne et elle devient l'étendard brandi par le peuple des femmes, jusqu'à représenter une certaine menace pour la première Église. Car il y a bien Barnabé qui est là, et lui, il n'apprécie pas beaucoup le fait que cette femme s'est auto-baptisée. Car les femmes, on le voit bien encore aujourd'hui dans l'Église, n'ont pas le monopole du baptême. Pourtant, Théoclia est célébrée dans tout l'Orient chrétien. Et c'est pour cela que je dis que la première histoire de Frédéric Gros, parue chez Albin Michel, est une révélation. Avant que l'Église de Rome ne décide d'effacer son histoire, il faudra même, d'après l'enquête de Frédéric Gros, que ce soit Paul VI qui la retire du calendrier. Donc elle est célébrée dans tout l'Orient chrétien. Elle a été une chrétienne formidable, Théoclia, avant que l'Église de Rome ne décide d'effacer son histoire. Littéralement possédé par cette grande figure, Frédéric Gros a mené une grande enquête. Alors c'est un peu sa version qu'il donne. Alors, je ne vous dis pas la fin de cette pauvre Théoclia. Revisite un texte apocryphe que certains savants considèrent comme le premier récit chrétien à avoir circulé sous forme écrite quelques décennies avant la rédaction des évangiles. Il a composé ici le roman d'une vie et d'une femme, voilà, qu'on peut dire unique. Il y a même une déclaration que je n'ai pas retrouvée, mais qui est dans le livre de Saint Paul parlant de cette Théoclia, faisant renaître le christianisme des origines. On y retrouve donc, comme je l'ai dit, Paul et Barnabé, et une carte, ça je ne l'ai pas dit, une carte qui montre bien tout le périple des uns et des autres entre Pergé, Konya, Lystria, Antioche, les deux Antioches même, pour assurer la première mission de Paul en Turquie, dans cette vaste région de la Turquie. Ça, c'est Frédéric Gros qui le dit. Elle a décidé, Théoclia, elle sait qu'elle va commettre des choses sans retour. Elle trame dans sa tête une décision qui la fait trembler de joie et de peur, et qui va provoquer son histoire, d'où le titre « La première histoire ». Une décision qui fera d'elle la première prodige de l'histoire chrétienne. Voilà, je m'arrête là-dessus, sur cette première histoire de Frédéric Gros, qui vient de paraître chez Albin Michel. Alors je vous parle, on parle de pluie, de la pluie qui a été favorable, qui a protégé Théoclia des flammes, pas de l'enfer, mais des flammes du brasier, du bûcher. Et ici, je parle d'un autre grand roman, En attendant le déluge, donc on trouvera de la pluie là aussi, En attendant le déluge, de Dolores Redondo, une grande romancière espagnole qui vient de paraître chez Gallimard, dans la série noire de chez Gallimard. À l'origine de ce roman époustouflant, des faits réels, entre 1968 et 1969, celui que la presse écossaise a surnommé Bible John, de nom Bible John, qui tua trois jeunes femmes rencontrées dans une discothèque de Glasgow, en Espagne, et qui a disparu de la circulation. Le temps passe, on ne sait pas ce qu'il est devenu. En 1983, Noah Scott Sherrington, inspecteur policier, c'est lui le personnage aussi principal, il y a le tueur, mais il y a aussi donc cet inspecteur policier, obsédé par Bible John, depuis près de 15 ans, lui ne s'est pas arrêté. Il s'apprête d'ailleurs à l'arrêter sous une pluie torrentielle, les bras en croix avec des corps, semble-t-il, quand il est foudroyé par une crise cardiaque. À peine remis, écoutant son intuition et résistant aux injections des médecins qui disent que son état est vraiment très grave, qu'il faut faire attention, qu'il faut se retirer, et la police aussi dit qu'il faut qu'il se repose, la hiérarchie. Il suit, mais Noah suit la piste du meurtrier et va aller jusqu'à Bilbao, en Espagne, donc loin de Glasgow. Bilbao, qui est un port où s'active secrètement l'ETA, voilà, dans les années 1983, donc l'ETA était virulent, et qui sera aidé par l'IRA d'Irlande. Donc on voit bien les différentes interactions qui se mêlent dans ce roman. Alors que les fêtes patronales de Las Naguzia battent leur plein, des jeunes femmes sont assassinées à la sortie de discothèque. Et Noah, enquêteur tenace et doté malheureusement d'un cœur fragile, au sens propre comme au sens figuré, a-t-il enfin retrouvé sa cible, qui a l'art de changer de silhouette et de nom? Eh oui, il va la retrouver. Elle sera secondée par une femme, voilà, Maïs, qui lui est toute dévouée, et qui lui sera toute dévouée. Par amour, voilà. Il découvre l'amour. Noah découvre l'amour avec Maïté. Donc, un point positif. Et Mikel, un jeune policier, Ercena, qui lui sera très utile dans cette société de Bilbao. même si elle ressemble un peu à celle de Glasgow. Mais voilà, j'ai parlé de déluge, et dans le livre, il y a bien le mot « en attendant le déluge ». Donc, mais les terribles inondations de 1983, d'où le titre « en attendant le déluge », vont bientôt ravager la ville. Feront-elles obstacle à son projet, celui d'arrêter ce tueur, un tantinet désespéré, après l'éducation qu'il eut, tenu en étau, jeune garçon tenu en étau, par deux femmes, deux tantes, les sœurs de sa mère, deux tantes, ce qui va complètement le perturber et faire de lui ce tueur. C'est un roman, en attendant le déluge, c'est un roman d'une maîtrise tout à fait remarquable. Dolores Redondo se revendique comme une écrivaine de la tempête. Et quelle tempête dans ce roman, dans ce grand roman. Elle a connu un succès planétaire avec « La face nord du cœur », que nous avions aimé et diffusé sur cette antenne en 2021. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture avec « En attendant le déluge » de Dolores Redondo, paru chez Gallimard. Alors je vais parler aussi là, « Les âmes de feu » d'Annie Français-Harare, qui vient de paraître chez Bellefond, que je remercie. C'est un grand roman écrit en 1920 par Annie Français-Harare en Autriche, resté inédit en France. Les âmes de feu prévoyaient déjà la catastrophe climatique actuelle. Voyez, on parle de climat, d'écologie. Un roman sidérant de clairvoyance et d'anticipation. Je dois vous parler un petit peu de cette Annie Français-Harare. Née à Munich en 1886, elle étudie la biologie et la médecine. En 1916, elle devient la collaboratrice de Raoul Heinrich Français. Raoul Heinrich Français, directeur de l'Institut de biologie de Munich. Leur recherche sur la fertilité des sols va servir d'inspiration au roman « Les âmes de feu », donc paru en 1920. Le couple se marie à Salzbourg, contraint de quitter l'Allemagne en 1943, il trouve refuge à Budapest. C'est là qu'Annie inaugure en 1945 la première station de compostage au monde avec la transformation des déchets municipaux. Voilà. En 1950, elle publie un traité scientifique qui fait l'objet d'une critique positive du grand Albert Einstein. En 1952, elle s'installe au Mexique et aide le pays dans la lutte contre l'érosion et la dégradation des sols. Et son idée de compenser la perte d'humus par une utilisation judicieuse des déchets est reprise par le plan alimentaire général des Nations Unies. Voilà. Donc, en 1961, elle retourne en Autriche où elle meurt. En 1971, elle a 85 ans. Dans ce roman, « Les âmes de feu », elle imagine un futur pas si éloigné de nous. La 15, c'est le nom qu'elle a donné à la mégapole où les citoyens sont heureux et mènent une vie sans effort. Fini la misère, les guerres et les injustices sociales des siècles précédents. Pendant ce temps, en étudiant des échantillons de sol récoltés à proximité des métropoles, Henrik, le personnage principal, Henrik, un scientifique, avait suivi la progression de la catastrophe. La bactérie, aussi petite qu'utile, était anéantie en périphérie des usines. Vous voyez, on retrouve les usines. De sorte que si des matières en décomposition se retrouvaient dans le sol, elles ne pouvaient plus être transformées en matière vivante. Les plantes et les animaux souffraient de la faim à leur tour. Seuls les humains, dans leur tour, dans leurs habitats, approvisionnés en air purifié, avec leur alimentation artificielle, pouvaient surmonter cela et y survivre. Eux seuls, point d'interrogation, eh bien non, car l'humain lui aussi risque de disparaître s'il persiste à ignorer son environnement. Même lorsque des incendies inexplicables menacent la population. Trop tard, la cité s'embrase, les citadins tentent de fuir, c'est le chaos. On a parlé de chaos déjà au tout début. Alors que tout semble perdu, Henrik, entrevoit une lueur d'espoir, celle de rejoindre le monde paysan. Voilà, on revient à ce monde paysan. La nature en montagne, la nature avec un grand N, où il est encore possible de respirer et de vivre en communion avec la nature. À l'heure où les conséquences du réchauffement climatique se font chaque jour pressantes, on ne peut souhaiter qu'aux âmes de feu, ce roman sidérant que de trouver un nouvel écho. Alors il me reste un dernier livre à vous présenter brièvement, mais qui est important, c'est celui de Fabrice Hadjadj, que j'avais sous le coude, et qui est important parce qu'il rentre bien dans cette thématique. Fabrice Hadjadj, qui dirige actuellement l'Institut européen d'études anthropologiques, Philanthropos, à Fribourg, en Suisse, nous offre ici un essai, une puissante méditation sur le vivant et l'interdépendance spirituelle de l'homme et des bêtes. On ne peut pas séparer l'un des autres. La relation entre écologie et eschatologie, c'est-à-dire les fins dernières, à travers une approche à la fois philosophique et biblique. Il pense tout de même une tragédie heureuse, même si le titre c'est « Écologie tragique ». Il ne s'agit pas de donner pour durer, mais de durer pour donner encore. En bref, il prend le taureau par les cornes, car il y a un problème, et même un problème à cornes, selon la formule de Nietzsche, Peut-on vraiment fonder l'écologie sur la nature, dont la notion est si ambivalente, car la nature n'a pas attendu l'homme pour produire cinq extinctions massives. Laissée à elle-même, elle éteindra tout, y compris les étoiles. J'avais présenté d'ailleurs, il y a quelque temps déjà, un livre fait par des scientifiques qui montrait que tout allait disparaître, même les étoiles. Donc on y revient là. Et si le sens du vivant ne se trouvait pas tant dans la conservation que dans l'exposition de soi, une exposition glorieuse jusqu'au sacrifice. Si la Madone était plus vraie que la Méduse. Je vous lis juste un dernier passage de ce livre, parce qu'il parle de François d'Assise, dont on fête les 800 ans, François d'Assise, de sa transfiction, 800 ans, de cette écologie. Et donc, lui, Fabrice Hadjadj, il en parle tout ça, tout simplement, parce que de l'écologie, de cette écologie tragique, François d'Assise peut donner le ton. Encore faut-il l'entendre jusqu'au bout. Aller du sermon aux oiseaux à la transfiction sur l'Alverne, en Italie. Ne pas tronquer le cantique du frère Soleil, car nous nous arrêtons le plus souvent à louer sois-tu au Monseigneur. Pour sœur, louer sois-tu au Monseigneur. Pour sœur notre mère la terre, sans même réfléchir à ce sœur dans lequel la maternité de la terre dépend de la paternité céleste. On oublie ça. Comment chanterions-nous la suite qui nous plonge dans le drame ? Loué sois-tu, ô mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour l'amour de toi et supportent douleur et tribulation. Et surtout, loué sois-tu, ô mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent dans le péché mortel, bonheur à ceux qu'elle trouvera dans tes très saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera aucun mal. Ce qui vaut pour l'homme, quant à la mort corporelle, vaut pour tous les vivants de ce monde. Aucun n'y échappera. Ce qui est propre à l'homme, c'est de pouvoir appeler cette mort sa sœur. Elle deviendra la compagne de son sacrifice, seul rempart contre le suicide, notamment contre le suicide spirituel, qu'est la seconde mort, où l'on ne se préserve que par le gel du cœur. Le gel du cœur, c'est ce qui veut se passer. C'est ce qui peut se passer, le gel du cœur. La première mort est notre sœur, dès lors qu'elle nous trouve en tenue de service, la ceinture au rein et la lampe allumée, prêt à rendre les comptes de notre gérance. Voilà, j'arrête là-dessus. Donc, Fabrice Hadjadj, Écologie tragique, un grand livre qui mêle vraiment beaucoup de connaissances bibliques, de la généalogie, chez MAM, qui vient de paraître chez MAM. Voilà, et que je vous recommande de lire. À bientôt, au revoir.